Du 11 au 20 septembre, c'est préavis de désordre urbain à Marseille. La Grenouille vous offre quelques chroniques du désordre. Marseille serait-elle une ville désordonnée de nature? Pour Pierre Sauvageot, artiste, musicien et directeur des lieux publics depuis 2001, c'est semble-t-il une certitude, mais certainement pas une fatalité.
Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que dans une ville comme Marseille, le désordre urbain, il existe déjà. Pas tellement besoin des artistes pour faire du désordre urbain, parce que voilà, on se poserait la question différemment dans une ville policée, du nord de l'Europe, du nord de la France, où tout est organisé, les transports, les voies pour bus, les voies cyclables. On voit bien que dans les villes européennes très organisées, il y a un côté agaçant. Tout est tellement bien ordonné, tout est tellement bien en place, etc., que on a envie de se couler le cocotier. À Marseille, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que tout d'un coup, bon, là particulièrement, il y a une période de travaux, mais même hors période de travaux, c'est une ville qui n'est pas ordonnée, le moins qu'on puisse dire. Ma réaction, et en tant qu'artiste et en tant que directeur de lieu public, c'est plutôt d'embarquer des artistes, non pas qui rajouteraient du désordre au désordre, mais qui inventeraient des ordres potentiellement différents, qui tout d'un coup, bon, on est parti sur la thématique de la métamorphose, mais qui tout d'un coup diraient bah, cet espace-là, il sert d'habitude à ça, il peut complètement être autre chose. Les projets qu'on porte, essentiellement, donc les projets qu'on va faire sur Métamorphose l'année prochaine en 2013, c'est plutôt voilà, les escaliers de la gare, comment tout d'un coup ils peuvent changer de couleur. Et tout d'un coup, voilà, on les voit plus pareils. C'est sûr que si on arrive à les changer de couleur, qui fait partie des projets, tout d'un coup, il y a non pas un désordre, mais il y a au contraire peut-être une manière à la fois, c'est une révérence et en même temps une transgression. Donc.
Des artistes qui se retrouvent souvent dans une position inconfortable, devant jongler en permanence avec les compromis.
L'autre chose qui est peut-être intéressante quand on tire le mot désordre urbain, c'est la question ambiguë, très complexe, de la position de l'artiste, c'est-à-dire est-ce qu'on demande des autorisations, est-ce qu'on les demande pas, est-ce qu'on demande du financement, est-ce qu'on les demande pas, c'est-à-dire est-ce qu'on est financé pour mettre du désordre dans la ville, alors que normalement tous les fonds publics sont là pour mettre de l'ordre, d'une manière ou d'une autre, en tout cas d'organiser les choses, de faire que voilà, ça, on va faire ci, on va faire ça, etc. Donc tout d'un coup, peut-être qu'il faut des clowns, peut-être qu'il y a une espèce de situation de l'artiste en bouffon comme révélateur de voilà, on a fait un ordre, et cet ordre, forcément, il a des effets pervers, il a ses limites. Bon, il y a aussi dans toute la question très complexe des autorisations, puisque, ben voilà. Donc une rue, si on demande l'autorisation, on ne l'a pas. C'est très simple. Donc, enfin, on a très difficilement, même lieu public. C'est très, très, très compliqué de dire on va bloquer la Canebière pendant une demi-heure. Je veux dire, à la limite, on peut la bloquer plus facilement pendant un jour. Faire le banquet, on va bloquer la Canebière pendant un jour. Mais là, on est bien en dialogue avec la ville qui comprend pourquoi, etc. Mais on ne vient pas y mettre un désordre, en l'occurrence. On ne vient pas donner un miroir. Et comme ça, quelque chose d'imprévu, on va dire, et on va l'annoncer 15 jours à l'avance, la Canebière sera fermée le dimanche et tout, parce qu'il y a un grand banquet sur la Canebière. Donc ça, c'est acceptable. La ville le comprend, l'accepte, et même y est favorable. Bon. En revanche, si tout d'un coup on dit, ouais, les artistes qui veulent bloquer la Canebière sans prévenir, parce que c'est ça le concept artistique, on ne l'obtiendra pas. Tout simplement, on ne l'obtiendra pas. Quelle est la position de l'artiste? Est-ce que, quand il décide d'être un fauteur de désordre urbain, ce qui en soi très passionnant. Il y a des foules d'artistes qui ont travaillé sur des performances comme ça, qui viennent bloquer, qui viennent perturber la ville, etc. En même temps, est-ce qu'ils, de même côté, ils peuvent se positionner en disant un, je vais être payé pour ça, et deux, je veux qu'on me donne l'autorisation.
Néanmoins, une économie de la trace, c'est l'alternative choisie par certains. Pierre Sauvageot nous raconte l'histoire d'un graffeur ayant suivi cette autre voie.
À un moment, on avait beaucoup travaillé avec un graffeur qui s'appelle Zeus, qui avait fait de très très beaux projets avec nous, et qui, lui, venait pas du tout du monde des arts de la rue, qui venait vraiment du monde de l'art contemporain. Et ce qui était intéressant d'analyser, c'est la différence économique. C'est-à-dire que les arts de la rue vivent peu ou prou sur l'argent public, soit de la subvention, soit de l'achat de spectacles, alors que tous ces artistes plasticiens qui interviennent dans l'espace public vivent sur une économie de la trace. C'est-à-dire l'acte est gratuit. Effectivement, Zeus, à 4h du matin, donc c'était à Berlin, et une nuit, il loue une nacelle autoporteuse, comme ça, et il découpe, aussi au cutter, il y avait une immense affiche qui devait faire 20 mètres de large sur 10 mètres de haut, avec une super poupée d'enfer qui vantait les mérites du café Lavazza. Et donc, il est monté avec une nacelle, il a découpé au cutter la silhouette de la belle jeune fille, etc. Bon. Et il l'a kidnappée. Et après, il l'a installée dans son studio, il l'a bâillonnée. Donc c'était un bout de papier, par ailleurs. Il l'a bâillonné et il a fait des communiqués de presse du genre la fraction armée rouge, je sais plus quoi, et on libérera tout ça, que en ainsi Lavazza arrête d'utiliser du café torréfié par des enfants de 8 ans, etc. Je ne me rappelle plus exactement. Et il prenait des photos, de simulacre. Bon, c'est une très jolie histoire. En plus, Lavazza était plutôt malin, ils ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au courant. Mais le type de la com de l'époque devait être plutôt malin, donc plutôt que faire des communiqués en disant c'est scandaleux, il a dit, ils ont fait un communiqué du genre rendez-nous, cette pauvre, elle y est pour rien, etc. Donc ils ont joué avec, ce qui était plutôt plus intelligent de leur part. Et, mais en même temps, l'acte artistique est gratuit, c'est-à-dire personne n'a payé Zeus pour le faire, personne n'a payé le matériel, personne n'a demandé d'autorisation. En revanche, lui a documenté tout ça par des photos, par des textes, par des films, etc., et qu'il a vendu. Et son économie était une économie de la trace. Alors que dans ce qu'on appelle globalement les arts de la rue, même au sens le plus large, on est plutôt sur une... même s'il y a une grande forme de transgression, les collectivités publiques, les financeurs publics acceptent parfaitement bien que les artistes soient griffants, critiques, critique la société, critique la ville comme elle est organisée, tout ça. Il y a le droit à la critique, reste très fort. Mais en revanche, on est bien sur une demande de faire ensemble, c'est-à-dire qu'on ces artistes, pour les politiques, qui sont importants parce qu'ils créent du lien social, parce qu'ils font faire des choses ensemble aux gens, parce qu'ils rassemblent tout le monde pour leur montrer quelque chose tous ensemble. Donc on est plus sur une logique d'exceptionnalité, d'événements un peu magiques, qu'une logique de désordre, proprement dit. Même si on a le droit au désordre, ça peut faire partie, le désordre peut faire partie des créations des arts de la rue. Mais en vérité, ce n'est pas un vrai désordre, c'est une thématique du désordre.
Le préavis de désordre urbain, c'est du 11 au 20 septembre à Marseille et sur la Grenouille. Plus d'informations sur redpexus.org et radiogrenouille.com.